Oh, tiens, belle maman, puisque c'est l'heure et qu'on est chez toi, ça t'ennuierait qu'on écoute l'agité du local? C'est sur l'autre radio.
Ah ben non, au contraire, j'écoute tous les jours.
La curiosité est un vilain défaut. On a tous entendu cette phrase un jour, et moi je ne l'aime pas tellement. J'ai l'impression qu'elle casse un élan porteur de passion, et peut-être même qu'elle détruit cette envie dévorante de faire sa place, là où on se trouve, là où souvent ce n'est pas évident de le faire. Parce que la première chose que fait la curiosité, c'est aller vers l'autre, avec des maladresses peut-être parfois. Il s'agit de trouver l'équilibre, le juste milieu. Et s'il y en a bien qui ne l'ont jamais perdu cette curiosité, ce sont les artistes. Et celui dont on vous parle aujourd'hui, c'est Anthony Rousseau. C'est ici qu'on vous accueille ce jeudi 30 novembre dans votre émission quotidienne L'Agité du Local. Bienvenue à vous et bien sûr, bienvenue Lucie.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu nous fais découvrir en avant-première l'exposition Constellation, créée à partir des ateliers mis en place par Anthony Rousseau. Elle sera visible à Mayenne à la Chapelle de la Visitation. Et je ne vais pas oublier de vous dire que le vernissage, eh bien, c'est ce soir. Ensuite, c'est notre reportage Pensée Locale de la semaine. On se rend à l'atelier et boutique Aiguille et Petite Main de Maryse Rabel à Cran. Parce que oui, Maryse est couturière et ce qui a attiré particulièrement mon attention, c'est qu'elle crée des robes de mariée à partir de robes de seconde main. Et puis pour terminer, vous l'avez évidemment remarqué, vous l'avez évidemment senti, ce manque. Hier, dans l'agité du local, exceptionnellement, nous n'avons pas pu accueillir la chronique de Soizic, un autre écho de l'écho. Et comme ces chroniques nous sont toutes particulièrement précieuses, eh bien c'est aujourd'hui qu'on va avoir le plaisir de l'écouter. Soizic nous rejoint dans quelques instants. Sur l'autre radio et dans cette émission précisément, on vous parle de ce qu'il se passe dans le coin. Et comme Lucie, tu le fais si bien, c'est à toi.
Merci Margot. Pour commencer, chers auditeurs, la préfecture de la Mayenne a communiqué ce mardi que l'État a réformé en 2023 les régimes des calamités agricoles et de l'assurance récolte. L'objectif affiché est d'aider les agriculteurs face au changement climatique. En pratique, ils expliquent que la prime de l'assurance multirisque climatique est prise en charge à 70% par les aides publiques, la demande étant tout de même faite par l'agriculteur lors de sa déclaration PAC. Il s'explique également qu'être assuré est le seul moyen d'avoir une indemnisation importante si les récoltes sont détruites par un événement climatique et que les agriculteurs non assurés sont uniquement éligibles à l'indemnité de solidarité nationale dont les montants de prise en charge seront dégressifs d'année en année. La préfecture invite donc les agriculteurs à se rapprocher dès maintenant d'un assureur agréé pour 2024. Et pour ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à aller sur le site mayenne.gouv.fr pour avoir tous les détails de cette mesure. Côté sport maintenant, hier, mercredi 29 novembre, 2500 élèves des Pays de la Loire ont participé aux régionaux de cross Uxel à Laval. Et nos Mayennais ont raflé 4 titres, dont 2 titres individuels avec Maëva Barre de l'IMAC Laval en BF1 et Valentin Aubry de Don Bosco Mayenne en cadet junior. Les élèves se sont tous donnés à fond sur le parcours vallonné et boueux, bravo à eux. Et puis autre chose, le GAL Haute-Mayenne participe au prix leader européen. Il s'agit d'un prix qui met en lumière 5 projets du territoire, réalisés ou en cours de réalisation, et qui vise à récompenser les plus innovants. C'est au total 118 projets venant de 17 pays différents qui seront présentés pour ce prix, avec 4 prix à la clé, 3 prix pour les 3 projets préférés du jury et le prix du public. Le GAL, de son côté, a retenu 5 projets. Un premier porté par le GAEC Louvernay à Chantrinier, avec le séchage du foin en grange, la compagnie des arbres et des hommes qui propose le film « Who Gets the Power », l'exposition jumelle culturelle au musée du château de Mayenne, avancée par Mayenne Communauté, la commune de La Chapelle-aux-Ribous qui propose Village en transition et l'association Vents Citoyens à Saint-Hilaire-du-Maine qui porte la mise en place d'un parc éolien citoyen en Mayenne. Bon, vous vous en doutez, si je vous en parle, chers auditeurs, c'est parce que vous pouvez voter pour vos projets préférés parmi ces nombreuses belles initiatives. Ça se passe sur le site leadercongress.eu. Écrivez leadercongress.eu et c'est dans l'onglet le prix leader européen, vote du public. Vous avez jusqu'au 4 décembre et les 4 grands gagnants du prix européen leader 2023 seront annoncés le 18 décembre lors du congrès européen leader qui aura lieu à Bruxelles. Bon, et puis pour finir, ça y est, chers auditeurs, on est la veille du mois de décembre, les marchés de Noël ont commencé, j'en ai encore à vous partager. Pour commencer, vous pourrez vous rendre à Bazougé, au lieu dit placé, où se trouve l'école maternelle La Ferme, les pieds dans l'herbe. Et vous pourrez y trouver de quoi vous régaler avec des jus de pommes chauds, des crêpes et des galettes, etc. Et puis de nombreux producteurs, artisans et créateurs du territoire. Et ce n'est pas tout, puisque des activités seront également préparées, comme des histoires au coin du feu, du maquillage et j'en passe. Tout ça sera à la ferme Arc-en-Ciel, au lieu dit placé à Bazougé, le samedi 2 décembre de 14h à 20h. Et si ce premier marché est trop loin pour vous, ou si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez aussi aller à Genest-Saint-Ile, le dimanche 3 décembre de 10h à 17h, à l'école Albert Jacquard, et il y aura une trentaine d'exposants au total. C'est l'association des parents d'élèves de l'école, en partenariat avec l'association Les Sapins de l'Espoir, qui se sont chargés de l'organisation.
Oh là là, il y a plein de choses de prévues ce week-end. Il nous faudrait des clones pour pouvoir profiter de tout.
Mais oui, et comme par exemple, il y a notre anniversaire, Margot.
Et oui, samedi, on fête nos 15 ans à Laval. Venez nombreux, on a hâte de vous voir. Le monde est en mouvement, son quartier d'enfance change aussi. Là, je vous parle d'Anthony Rousseau, un artiste pluridisciplinaire qui vient de terminer sa résidence à Mayenne sur l'évolution du quartier des Pommiers dans lequel il a grandi. Mais ce n'est pas tout, et Lucie, c'est toi qui en parleras le mieux.
Alors Anthony Rousseau, pour vous faire un portrait rapide, c'est un artiste plasticien pluridisciplinaire qui a grandi à Mayenne. Il aime bien explorer, tester, et puis il aime bien aussi partager son art et le faire découvrir aux jeunes. Alors quand l'association Atmosphère 53 a lancé un appel à résidence, il a naturellement sauté sur l'occasion. Il a invité les jeunes à réfléchir aux formes de représentation possibles d'une ville idéale en expérimentant plusieurs médiums. Vous pourrez voir l'aboutissement de leur travail dès ce soir à l'exposition Constellation. Ce sera donc jeudi 30 novembre lors du vernissage qui a lieu à la Chapelle de la Visitation à Mayenne dès 19h. Il y aura entre autres une lecture performance d'Anthony Rousseau qui est accompagné des élèves. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas être là ce soir, vous pourrez aussi visiter l'exposition vendredi 1er décembre de 14h à 20h. Et en attendant de les découvrir en vrai, on écoute un aperçu de ce qu'ils ont fait.
Donc bonjour, je m'appelle Anthony Rousseau, je suis artiste plasticien et je suis actuellement en résidence à Mayenne via Atmosphère 53, une association en lien avec le cinéma. Cette résidence, elle se déroule en deux parties. Il y a eu une première partie au mois de juin, juillet, qui a duré un mois, qui était liée aux préparations des ateliers qui ont lieu là au mois de novembre. Cette résidence était autour d'un projet d'écriture d'un court-métrage, qui est une fiction expérimentale autour du quartier du Pommier, qui est un quartier populaire à Mayenne. Alors ce court-métrage s'appelle « Déconstruction » en deux mots. Il y a un rapport un peu autobiographique dans ce court-métrage puisque j'habite maintenant dans les Hauts-de-France, à côté de Lille. Et c'est un peu l'histoire de quelqu'un qui habite dans le Nord, qui reçoit l'appel d'une inconnue qui lui annonce la mort de son père biologique qu'il n'a pas connu. Et il décide de partir à Mayenne pour les funérailles. Et lors de son trajet en train, il se remémore les souvenirs, ses souvenirs, réel ou fantasmé d'un quartier, d'une enfance, des parties de football, de cette liberté qu'il avait sur son skateboard. C'est un peu toute une myriade, une constellation de choses autour de ce quartier, autour de souvenirs de ce quartier, de la ville de Mayenne par extension. C'est un projet qui me tenait à cœur puisque j'ai fait toute ma scolarité tout autour de ce quartier. Donc pour moi c'était important de travailler sur cette mémoire. L'idée était vraiment de travailler sur la mémoire, sur la représentation de la mémoire. Donc non seulement à travers des témoignages, mais aussi des techniques, des médiums. Je vais utiliser le film Super 8, donc des films de production artisanale, on va dire, familiale, qui date des années 60 et 70, de l'image générée par intelligence artificielle pour donner une représentation de l'absence, la modélisation 3D pour tout ce qui a été démoli depuis. Donc voilà, c'est un ensemble de techniques, de technologies qui me permettent de mettre en valeur cette mémoire collective et cette mémoire personnelle. Bon voilà, c'est un quartier qui est en friche, l'histoire suit son cours. Je pense à ces personnes qui ont vécu dans ce quartier, deviennent déracinées dans leur propre quartier, parce que maintenant tout est à l'abandon, tout est en friche, tout est en mutation. Donc le quartier se métamorphose, et ce qui est le plus laid dans la métamorphose, c'est la mue. Et cette mue, c'est des périodes de transition, et à un moment, il faut faire avec. Mais moi, je voulais témoigner de cette mémoire.
Je m'appelle Valentine, j'ai 11 ans. On fait un projet pour l'exposer après. Et donc, c'est sur l'utopie, Donc on a fait 3 catégories, la solidarité, l'écologie et le progrès. Et donc on fait des dessins qui sont projetés, des mots qui apparaissent, plein de choses pour représenter ce qu'on a écrit.
Bah, moi je m'appelle Manon, j'ai 13 ans et j'habite à Mayenne. Moi j'ai bien aimé cet atelier parce que ça nous permet de faire un peu dessiner ce qu'on veut. Après ça, on peut l'exposer pour que tout le monde puisse le voir, pour montrer un peu notre point de vue des choses. Puis dans nos dessins et dans ce qu'on a pu créer, bah, on peut vraiment genre mettre ce qu'on ressent, ce qu'on pense et tout ça, donc c'est bien.
C'était important pour toi de pouvoir exprimer et montrer à tout le monde ce que tu as dans la tête ?
Bah oui, parce que la plupart du temps, on n'écoute pas forcément les enfants, on a du mal à les écouter, à les croire, tout ça. Donc c'est bien de pouvoir aussi exposer ce qu'on pense et ce qu'on veut. C'est bien de pouvoir créer quelque chose d'imaginaire qu'on trouve un peu parfait, même si ça ne va pas forcément exister, c'est bien de pouvoir y croire.
Bah moi, je m'appelle Chloé, j'ai 12 ans. C'est bien d'imaginer le monde de demain, même si ça ne va pas se faire forcément.
Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'atelier là ?
Les dessins en rapport au progrès, à l'écologie et à la solidarité. Et de faire le modèle sur quoi on va exposer les dessins.
Cette construction de l'utopie, elle se fait à des moments charnières de l'histoire, suite à des projections intellectuelles, philosophiques, pour pouvoir construire une société nouvelle, avec des citoyens nouveaux, avec d'autres valeurs. Et je trouvais que ce quartier était révélateur d'une utopie à un moment, à la construction de ces baraquements dans les années 50-60, avec l'abbé Pierre. Alors les baraquements, c'était des logements d'urgence. Puis après sont venus les HLM, les bars HLM. Et c'était un symbole d'émancipation sociale, de modernité, le chauffage, l'eau courante, l'électricité, d'autres sociologies, d'autres rapports humains, un autre rapport à l'autre. Il ne faut pas oublier que c'est peut-être né d'une utopie, c'est-à-dire réunir des gens dans des HLM avec la modernité pour loger un maximum de personnes. Donc c'était peut-être une forme d'utopie à l'époque, quoi. Ceux qui sont extérieurs au quartier ne peuvent pas forcément comprendre ou ont une vision un peu biaisée des choses. Enfin, cette conception, cette représentation de ce quartier, pour moi, c'était important. Il y avait cette idée de vivre ensemble, de coexister, de s'émanciper aussi de son milieu, tout en respectant d'où on vient. C'est peut-être une forme de résilience plus qu'une forme d'utopie personnelle, mais en tout cas, il y a cette idée de se projeter ailleurs, tout en gardant des liens avec nos racines, notre passé, quoi.
Et là, du coup, dans ces ateliers, vous avez interagi avec les jeunes, vous avez vu d'autres formes d'utopie ?
Bon, j'ai pas attendu de les rencontrer pour me rendre compte de l'urgence de certaines questions sociétales. Tout ce qui était lié aux solidarités, à l'écologie, à l'égalité homme-femme, des valeurs que, à leur âge, je n'avais pas. J'avais d'autres préoccupations, mais j'avais pas celles-ci. Je pense que c'est révélateur d'une époque, d'une société où il y a urgence de travailler, de réfléchir à ce que c'est que l'utopie, à avoir encore des rêves, à vouloir se projeter vers un futur. Pour moi, c'était intéressant, c'était enrichissant, j'espère pour eux, mais surtout pour moi. Ça a nourri aussi un autre regard sur la jeunesse, sur la société actuelle. Rien n'est figé, il n'y a pas de déterminisme. Donc à un moment, on se retrousse les manches et on y va, quoi.
Merci.
Je m'appelle Élise et j'ai 12 ans et aujourd'hui je suis à l'art plastique.
Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'atelier que vous avez fait en ce moment-là ?
Le dessin où on dessine soit la pollution, soit l'économie, où moi j'ai présenté avant et après, c'est-à-dire avant où il y a plein de pollution et après où il n'y a plus de pollution. Aussi que l'idée de présenter ça au musée, c'est bien pour que montrer aux gens qu'il ne faut pas polluer.
Je m'appelle Margot, j'ai 11 ans, je suis en 6e et je suis à l'art plastique de Mayenne.
Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'atelier que vous avez fait en ce moment ?
C'est de marquer les petits mots. On a marqué sur des petits post-it, des petits mots, et on les a affichés sur un petit tableau. Pour moi, une utopie, c'est quelque chose d'imaginaire et qu'il n'y a pas. Donc, tout ce qu'il y a qui est malheureusement en France, même dans le monde, tout ce qui est pollution, tout ce qui est un peu harcèlement, l'égalité, fraternité, il n'y a pas dans utopie.
Je m'appelle Thibaut, j'ai 11 ans. On est en train de créer quelque chose à projeter pour une exposition. C'est l'utopie, le monde de plus tard, imaginaire, un monde meilleur. C'est un monde où il y aurait plus de verdure, moins de pollution, plus de progrès technologique.
Qu'est-ce que tu penses de l'atelier que tu as fait là ?
Ben, on a appris des choses et on peut s'exprimer en faisant des dessins qu'on va projeter après.
Est-ce que c'était important pour toi de pouvoir t'exprimer ici ?
Un peu, parce que sinon, ben, y a pas beaucoup d'autres moments où on peut faire ça. C'est pas très souvent que ça arrive. Alors, moi,
je voudrais qu'on fasse un petit tour de... Moi, je m'appelle Malo Gary, j'ai 14 ans. Là, on travaille sur l'utopie.
Qu'est-ce que c'est pour toi une utopie ?
C'est un peu un monde idéal, mais après on peut le voir sous différentes formes, sous les différentes personnalités des personnes, ça peut varier un peu.
Qu'est-ce que tu as pensé de cet atelier ?
C'était bien, ça a permis de découvrir d'autres choses, d'autres mots, d'autres vocabulaires, puis de pouvoir imaginer un peu ça.
Finalement on va barrer le mot.
Est-ce que c'est important pour vous de faire de la médiation culturelle ? Qu'est-ce qui vous plaît dans les ateliers comme ceux que vous avez pu proposer ici ?
Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a à la fois profiter d'être sur un territoire pour partager son travail, ou en tout cas une partie de son travail. Et c'est aussi démocratiser cette approche artistique auprès d'un grand nombre. Je le fais quand je mets mes travaux sur Internet pour pouvoir les partager. Je n'organise pas une forme de rareté. Je veux vraiment partager un maximum mes productions pour qu'elles existent. Donc c'est important pour moi de revaloriser ce travail. Puis c'est quelque chose que j'aime. L'idée de transmettre quelque chose, de partager une expérience, c'est quelque chose qui est fondateur au niveau de mon travail. J'ai un retour d'expérience, on va dire. J'ai beaucoup aimé les ateliers en général que j'ai pu initier et animer ici à l'école d'art plastique de Mayenne et aussi au lycée Lavoisier à Mayenne. J'ai bien aimé, c'est l'énergie qui était déployée, qui était mobilisée pour répondre à ces ateliers. Là où j'ai été vraiment agréablement surpris, c'est les lycéens qui ont mis en place la vidéo et la musique qui sera jouée lors de la performance jeudi 30 novembre à 19h à la chapelle de la Visitation, cette performance. Donc on a fait quelques répétitions et j'étais agréablement surpris, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de maturité, d'implication, de mobilisation qui était vraiment très intéressante. Et je salue la maturité de ces jeunes gens qui sont beaucoup investis pour faire cette exposition, cette restitution jeudi et vendredi.
Vous vous attendiez à ça ?
Pas à ce point. Souvent, il y a de l'investissement parce que moi-même, je m'investis aussi. Donc, je pense que ça doit se ressentir aussi. On essaie de créer des synergies, on essaie de se mobiliser pour rendre attractif cet atelier ou les ateliers. Là où j'étais le plus agréablement surpris, c'était cette énergie déployée. C'est l'implication et l'énergie déployée, c'est la volonté de bien faire. Et ça, c'était très intéressant.
Et puis, bon courage à vous. Belle continuation. Et peut-être à bientôt.
Alors, je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues aux ateliers, qui ont participé, qui ont permis à ces ateliers de se faire, à cette résidence, à l'accueil des Mayennais et des Mayennaises, parce que ça a été très bienveillant et très positif. Ça fait chaud au cœur. Quoi. Voilà.
La vie est belle, on en a qu'une.
La vie est belle.
On en a
qu'une. On vous aime, bisous.
Salut.
Bisous, restaurant.
Bisous, mes lives.
We all here and the people listening in today had the opportunity to share that adventure over its developing and unfolding in the past months and years.
Rien ne passe, à quoi tu penses? Est-ce que tu rêves de jours heureux? Est-ce que tu rêves qu'il n'y a pas que toi, que toi, que toi que ça lance? Je sais c'est pas facile tout ça. On nage dans des eaux trop profondes. t'arrangera bien que je te le dise. Mais voilà, c'est pas que toi, tu sais, c'est tout le monde. Je sais qu'une épaule, c'est bien pour plein. Je sais qu'une épaule, c'est jamais assez. Qu'à l'entensoul, on est bien pour aimer, mais c'est pas assez. Ça changera rien que je te le dise. Mais voilà, c'est pas que toi, que moi, tu sais, c'est tout le monde. Parfois on a trop à entendre ou à répondre. C'est pas que toi, que moi, tu sais, c'est tout le monde. J'aimerais être l'ami que tu attends, les mots qu'il faut au bon moment. Je sais pas bien, on va faire un tour. Allons voir comment font les gens autour. Tant pis, tout le monde pleure. Tant pis, tout le monde a un cœur. Je sais que le chagrin, ça peut durer, mais c'est pas cassé. Ça changera rien que je te le dise. Mais voilà, c'est pas que toi, que moi, tu sais, c'est tout le monde. Parfois on a trop à entendre ou à répondre. C'est pas que toi, que moi, tu sais, c'est tout le monde. Ça changera rien que je te le dise. Mais voilà, c'est pas que toi, tu sais, c'est tout le monde.
It's our privilege today to share with you some of the details of that final month of July that was certainly the highlight for the three of us.
S'il a trouvé les mots qu'il faut pour vous séduire, Chien Noir sera à découvrir sur la scène de l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe le 2 décembre. De la dentelle d'occasion pour le plus beau jour de votre vie, Maryse Rabel est couturière et tient la boutique Aiguille et Petite Main rue des Halles à Cran. Depuis peu, elle se lance dans la création de robes de mariée sur mesure à partir de robes de seconde main. Vous préparez peut-être en ce moment votre mariage ou c'est une idée qui fait son chemin dans votre tête. Imaginez reprendre la robe de votre mère ou de votre grand-mère pour en créer une nouvelle unique. L'habit ne fait pas le moine et la robe ne fait pas la mariée, mais si vous y tenez quand même, Maryse peut la créer.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
On se rend à Cran, en Mayenne, dans l'atelier de couture, aiguille et petite main de Maryse Rabel. Il y a peu, Maryse s'est lancée dans le réemploi par souci éthique et écologique. Elle crée des robes de mariée à partir de robes de seconde main. Allez, c'est parti, on y va.
Je m'appelle Maryse Rabel, je suis originaire de Cran, j'habite à Bouchamps-les-Crans, donc pas très loin. J'ai toujours fait de la couture depuis enfant et j'ai fait toutes mes études sur Laval. J'ai fait après 18 ans d'industrie en industrie de luxe prêt-à-porter haut de gamme. Et depuis 4 ans, je suis installée à Cran dans mon petit atelier boutique. Je fais de la retouche, de la confection sur mesure, de la transformation de vêtements, de l'ameublement, je fais tout. Ma boutique, je l'ai appelée Aiguille et Petite Main. Aiguille parce que bon, moi, je suis toujours avec une aiguille dans la main. Et les petites mains, ça me faisait penser aux maisons de haute couture, les petits ateliers et tout. Donc je voulais avoir un petit peu un côté un peu vintage.
Et alors vous vous êtes lancée dans le réemploi de robes de mariée de seconde main. Comment ça a commencé ?
C'est le gros challenge de cette année et des années à venir, ou des mois à venir, j'espère. C'est montrer qu'on peut refaire des robes de mariée actuelles avec des anciennes dont la matière est là, elle est précieuse, elle est magnifique, il y a des dentelles, il y a des mousselines, il y a des soies. Et on peut refaire quelque chose avec de l'ancien, faire sa robe personnalisée avec la robe de maman, la robe de grand-mère, de l'arrière-grand-mère. On peut tout faire en couture.
Et alors ces personnes qui viennent vous voir pour concevoir leur robe de mariée à partir d'autres robes, pourquoi est-ce qu'elles font ce choix ?
J'ai toutes les personnes. J'ai des jeunes qui sont sensibles au réemploi, qui sont dans les faits, seconde main avec les effets vintage, Le Bon Coin, les vides-greniers, on chine et tout. Donc j'ai vraiment des personnes qui sont très attachées à ça. Et j'ai des personnes aussi qui font un remariage. Lors de leur premier mariage, elles n'ont pas pu avoir la robe qu'elles voulaient parce que, voyez, elles avaient des codes à respecter et tout. Et là, elles veulent se faire plaisir, elles veulent avoir la robe qui leur convient.
Et alors, pour vous, dans votre métier, qu'est-ce que cette activité vous apporte de plus ?
Ah, moi, c'est la transformation. J'adore transformer les vêtements, leur donner une seconde vie, les pouvoir faire plaisir à la personne, déjà, qu'elle se découvre au fil des essayages dans sa robe, même si c'est des matières qui ont déjà été utilisées. On crée la robe pour la mariée, quoi. Chaque robe est unique, en fin de compte. On peut être unique sans avoir un budget illimité. Et tout en gardant un peu d'éthique et d'être un peu éco-responsable, on peut trouver et se faire plaisir pour son jour le plus beau de sa vie. Donc j'ai pris la dentelle de la première robe courte avec un dos ouvert, forme dos nu, vraiment très joli, très féminin, tout en dentelle. J'ai recreusé le décolleté pour faire un décolleté en V. Et je l'ai recoupé du coup la seconde robe, donc qui a ses petits défauts, ses fils tirés, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas méchant. Donc on va recacher ça après avec de la dentelle. Et là c'est à l'étape où les deux morceaux vont être réassemblés pour faire la robe finale. J'estime à 10 à 15 heures de travail total entre l'imagination, le fait de chiner les robes, d'évaluer leur potentiel, si on peut faire quelque chose assez poussé ou s'il faut carrément déstructurer la robe. Et puis le temps de dépiquage, de remontage, donc là je suis quasiment à la moitié.
Pensée locale, un enjeu de société.
Il faut inciter les jeunes à créer, à être motivés, à être curieux aussi. Mais c'est vrai qu'il faut garder les métiers artisanaux. Les jeunes, maintenant, cherchent là-dedans, dans cette voie-là, parce que c'est des filières entières qui vont finir par fermer, parce qu'il n'y aura pas assez de jeunes à se mettre dedans, alors que c'est un métier vraiment... C'est dur, mais on peut s'éclater.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Merci à Maryse Rabel pour son accueil. C'est un reportage de Margot Doucet pour L'Autre Radio. Elles ne sont que deux dans l'agité du local. Une est parmi nous aujourd'hui. Je vous parle de nos femmes chroniqueuses et c'est Soizic ce midi qui prend le micro. Bonjour Soizic.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors tu vas nous donner un autre écho de l'écho. Est-ce que tu as peut-être une piste sur ce sujet ?
Alors, une petite devinette pour commencer. Savez-vous, Margot, qui a vu son revenu multiplié par 420 en 4 ans ?
Non, c'est... non.
Eh bien, assurément, c'est pas vous, mais c'est pas moi non plus.
Effectivement, c'est pas moi.
Eh bien, ce n'est même pas Bolloré, ni même Bernard Arnault, et malheureusement, d'ailleurs, pas L'Autre Radio, mais tout bonnement les chasseurs. Ou pour être plus précise, la Fédération Nationale des Chasseurs. Alors en effet, la subvention accordée à la Fédération Nationale est passée de 27 000 euros à plus de 11 millions d'euros par an. Et oui, je vous l'assure, ce n'est pas un mensonge médiatique. Mensonge médiatique, c'est la traduction française de fake news, ça parle plus que les anglicismes. C'est la cellule d'investigation de Radio France en collaboration avec le magazine Capital qui révèle l'affaire. Alors la Fédération Nationale des Chasseurs a ainsi reçu en 4 ans 60 millions d'euros pour indemniser les dégâts du gibier dans les champs. Donc ils sont censés le rendre, mais quand même. Dans le même temps, l'Office français de la biodiversité lui a versé 41 millions d'euros d'argent public, bien sûr.
Mais comment expliquer un tel déluge de financement alors, Swazik ?
Alors, la justification de ce flot, que dirais-je, même de ce tsunami bienvenu de subventions, est justifiée par l'Élysée, par la mise en place d'actions soit pédagogiques, soit en faveur de la biodiversité. Par exemple, les chasseurs doivent planter 900 km de haies pour faire revenir les oiseaux, préserver les sols en creusant des mares pour les canards, les tritons et les libellules. Mais aussi, et là c'est assez incroyable, doivent mettre des nichoirs, en l'occurrence en plastique, dans les forêts, ou apprendre encore aux écoliers à utiliser un couteau de chasse. Et là encore, je n'invente rien. Mais revenons-en au cadeau présidentiel. Nos amis les chasseurs ont également pu apprécier une baisse de moitié du prix du permis de chasse national. Alors tout cela fait beaucoup d'argent qui provient, ne l'oublions pas, de nos impôts, à vous, à moi et à tous les auditeurs. En dehors de tout parti pris pour ou contre la chasse, cette augmentation pour le moins massive, je vous entends murmurer délirante, mais il faut rester neutre, Margot. Massive, donc, pose problème. Pourquoi ? Eh bien, bien sûr, c'est surtout, ce que pointent du doigt les deux médias, c'est bien sûr le n'importe quoi des actions menées, comme les nichoirs en plastique par exemple, et surtout les fausses factures qui ont été établies pour des activités pédagogiques qui auraient été menées durant le grand confinement. Et oui, je sais, on s'enfonce de plus en plus, mais là encore, tout est vérifiable sur le site de Radio France. Oui.
Mais au-delà de ça, si ce n'était pas suffisant, cela vous semble vous poser un problème politique au sens de gouvernement de la cité, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ?
Eh bien, tout d'abord, il semble curieux d'accorder de plus en plus de subventions à une association qui a de moins en moins d'adhérents. Parce qu'on est quand même passé de 1 100 000 chasseurs en 2017 à 964 000 en 2021. Et d'ailleurs, peut-être cela a-t-il baissé, je ne sais pas. On pourrait quand même arguer que justement, cet argent doit permettre de rendre à nouveau la chasse attractive parce qu'elle œuvre pour le bien commun en s'occupant de la biodiversité. Sauf que la Ligue de protection des oiseaux, France Nature Environnement, voire les soulèvements de la Terre, si chers à Mme Darmanin, œuvrent aussi pour la planète. Et je ne crois pas savoir que ces associations ont bénéficié de telles largesses d'argent public. On est donc sur un problème d'équité et de parti pris difficilement justifiable. Attardons-nous maintenant sur la composition sociale des chasseurs. Je me suis rendu sur leur site, le site de la Fédération Nationale, et les premières photos montrent un groupe de chasseurs, que dis-je, de chasseuses. Alors on se dit, chouette, voilà une association qui a fait sa place aux femmes. Je déroule le site, et là, les statistiques tombent implacablement. Sur 100 personnes s'adonnant à la chasse, eh bien, 2 sont des chasseuses. Alors je ne sais pas vous Margot, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose qui coince à multiplier par 450 des subventions à une association composée à 98% d'hommes. Mais continuons notre petite enquête sociologique. Sur le même site, il apparaît que sur 100 chasseurs, donc on ne parle plus des chasseuses, plus de la moitié ont plus de 55 ans et 40 sur ces 100 chasseurs sont des cadres ou des professions libérales. Et alors, me direz-vous ? Eh bien, ce que je trouve quand même assez gênant, c'est qu'on est pile dans cette population-là, hommes, cadres, âgés de plus de 55 ans, qui se trouvent être le principal électorat d'Emmanuel Macron. En effet, quasiment 3/4 des cadres et des retraités ont voté pour le président actuel. Alors, le président de la République serait-il un fin limier ? Serait-il un bon chasseur au point de savoir chasser les électeurs même sans son chien ? Mais attention Margot, à trop chasser, il pourrait aussi perdre sa place.
Merci Swazik, merci beaucoup pour cette chronique. La culture peut-elle être un levier, Lucie, contre les violences faites aux femmes ?
Eh bien, c'est la question qu'on s'est posée à l'occasion d'une table ronde qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Laval, vendredi 24 novembre, à partir de 18h30. Plusieurs invités d'associations sociales et culturelles de la Mayenne ont abordé ce que cette prise de parole apporte en termes de dénonciation, d'information ou de médiation, dans la thématique des violences faites aux femmes. Donc, c'est Caroline de Laval, notre coordinatrice, qui a animé cette table ronde qui était organisée en partenariat avec la ville de Laval.
Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'écoute aujourd'hui sur l'autre radio.
Et oui, et on l'écoute à 19h. Vous aurez le plaisir d'écouter l'arsenal d'apparitions
qui a introduit ce moment d'échange par une lecture musicale.
À 21h, c'est un all blues très all jazz qui prend la relève.
Exactement, puisque ce sera avec Ariel Besson. Elle est française, trompettiste et bugliste de jazz. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle est également compositrice, arrangeuse et chef d'orchestre.
Bon, eh bien, ça promet de belles choses. Et puis, vous le savez bien, on est le dernier jeudi du mois. Donc, avant 19h, vous profiterez de la belle programmation musicale de Joël, notre programmateur. Et Lucie, je crois qu'avec Joël, vous vous entendez particulièrement bien en termes de goûts musicaux, si je ne me trompe pas.
C'est vrai, Margot, je suis toujours ravie d'écouter soit des artistes un peu niches que je connais, soit découvrir des artistes que je ne connais pas et qui deviennent des artistes que j'écoute plus souvent. Et puis, le côté éclectique de la programmation de Joël me correspond bien, il faut le dire.
Des chansons pop et mélancoliques, je crois qu'on peut les définir comme ça, ce sont les chansons de l'artiste Chien Noir. Il sera à notre micro demain dans l'agité du local à l'occasion de son concert au théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe le 2 décembre. Oui, vous l'avez déjà écouté par ici, vous pouvez dès aujourd'hui prendre votre place ou alors prenez le risque, il n'y en ait plus après l'émission de demain. C'est vous qui voyez, on se retrouve demain, réfléchissez bien et puis bien au passage, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.